Donc, après ces journées alésaines à Poitiers dont Patrick parlait, auxquelles notre IUN ne nous avait pas emmenés d'ailleurs, mais on ne lui en a pas voulu, on s'est inséré après dans le... Quand Patrick Picard est revenu chez nous au mois de septembre, quelques mois après, il est venu rencontrer les trois réseaux éclairs de notre académie, qui étaient tous représentés à Poitiers. Et donc, c'est à ce moment-là que Fabienne et moi, on a été intégrés au projet et qu'on a affiné une thématique de recherche, en tout cas d'action. On a essayé. Entre Poitiers et puis cette fameuse rencontre fin septembre, on avait distribué, identifié les besoins des équipes du réseau sur les écoles élémentaires, principalement, il me semble. Pour savoir ce sur quoi, quelles étaient les préoccupations principales des enseignants de notre réseau dans leur classe. Il s'est trouvé que ce qui est ressorti majoritairement, c'était la gestion de l'hétérogénéité. Donc on est parti sur ce thème-là, pas tellement affiné au début, dans les grandes largeurs. Puis, petit à petit, mais finalement assez rapidement, au bout de quelques semaines, le groupe s'est formé. Donc, il s'est constitué de moi, secrétaire comité exécutif. Au début, il y a eu trois conseillers PEDA, notre IEN, qui ne sont pas restés longtemps, notre IEN, un IAIPR, un directeur d'école, quatre professeurs des écoles élémentaires, et même l'animateur informatique s'était greffé avec nous.
Alors, par rapport aux quatre professeurs des écoles élémentaires, le choix s'est porté sur, on va dire, ce sont tous des professeurs chevronnés qui sont là dans le REP depuis au minimum, on va dire, 10 ans, et qui ont surtout un esprit, on va dire, bienveillant. Voilà, bienveillant dans le sens où ils peuvent se remettre en question, ils acceptent d'être filmés. Ils acceptent aussi différentes modalités de travail. Et c'était vraiment un choix aussi important par rapport à ce groupe de travail qui s'est constitué maintenant depuis 2 ans.
Ouais. Donc on a débattu beaucoup, beaucoup. Au début, on avait l'impression qu'on n'avançait pas pour trouver un titre et des objectifs à notre groupe. Finalement, on est tombé d'accord avec l'aide de l'IAIPR, il faut le dire quand même, sur le titre, on vous l'a écrit là, parce que quand on commence la phrase, voilà, quand on l'a fini, on ne se rappelle plus du début, c'est « Du débat professionnel au développement professionnel, repérage et traitement de l'hétérogénéité dans le primaire en éclair ». Voilà, c'est un peu pompeux, mais voilà, tout était dedans quand même. Et donc on est parti sur une hypothèse, on vous dira à la fin si elle tend à se confirmer ou non. C'est qu'un débat professionnel fructueux, c'est un levier pour une évolution des pratiques dans l'exercice de son métier. Donc après, il y a eu la partie, je laisse à Fabienne, recteur, contrat, tout ça.
Alors, l'article 34, donc on a une dérogation par rapport à monsieur le recteur, c'est-à-dire qu'on a fait le pari de mettre des M2, donc non titularisés, des M2 sur des classes en élémentaire, ce qui signifie plusieurs paramètres qui sont un petit peu délicats à gérer. Le premier, c'est faire le pari, naturellement, que les M2 vont tenir le coup. Alors, vont tenir le coup dans le sens où il faut qu'ils soient accompagnés. Ça en revient à ce que l'on disait hier, la formation des débutants. C'est-à-dire qu'on va faire le pari aussi que ces enseignants chevronnés qui vont encadrer ces M2 vont être vraiment très très présents. Alors c'est le cas dans notre réseau puisque les 4 M2 sont véritablement, coucounés par ces maîtres chevronnés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réunions pendant l'heure de midi, beaucoup de concertations le soir, etc., pour qu'il y ait des ponts entre ce qui se passe en classe et la présence du M2. L'autre pari qui est risqué, c'est de ne... Bon, alors, il y a ce coucounage, on va dire. C'est à un moment donné qui ne lâche pas. Et il y a eu quand même un cas cette année où le M2 a démissionné. Alors, ce n'était pas par rapport au fait qu'il soit en éclair. C'est qu'il s'est trompé de métier. Il nous l'a dit carrément en nous disant, ben voilà, j'ai pas cru que le métier de professeur des écoles était si difficile. J'arrête, je ne passerai pas le concours. Donc après, ça veut dire, voilà, comment gérer ça pour ne pas aussi entacher ce dispositif. Donc là, avec l'accord de l'IMN, on a mis exceptionnellement, et M. le Dazen d'ailleurs, un remplaçant puisque le M2 a démissionné. Donc c'est vrai que ça, ce sont des situations un petit peu délicates. Voilà. Bon, il y a eu un cas sur donc les 8 M2 depuis 2 ans, et pour l'instant, bon, ça va.
Ouais. Tout ça pour dire qu'on a quand même débuté dans des conditions très favorisées par notre hiérarchie. Mmh. C'est-à-dire qu'on était très suivis par la DAZN de loin, mais quand même bien, l'IEN, l'IAIPR très présent, qui nous a vraiment beaucoup aidés voilà, à lancer tout ça. Donc vraiment une vraie légitimité à y être. Voilà. Donc une fois qu'on a... Voilà, comme vous avez pu le constater, les membres du groupe ont des métiers différents. Il y a autant conseiller PEDA que prof, QEN, IAIPR, animateur, directeur. Et donc, voilà, on a passé quand même beaucoup de temps au départ à se caler sur les mots, sur échange de pratiques, analyse de pratiques, qu'est-ce qu'on voulait y mettre, quels étaient nos objectifs.
Vous pouvez redire à quoi servaient les M2, parce que je ne suis pas sûr que ce soit...
Ouais, les M2, en fait, ils remplacent les 4 professeurs des écoles qui sont engagés dans le groupe Recherche Action. On va l'appeler GRA tout le long, ce sera plus simple, ça, c'est le dispositif. Donc l'année dernière, c'était, je ne sais plus quel jour, le jeudi, ou voilà, là c'est le lundi. Donc ils prennent la classe et les PE sont déchargés voilà. Pour faire tout ce qu'on va vous dire. Voilà. Donc du coup, finalement, on s'est fixé des objectifs qui étaient faire évoluer les pratiques de travail, apprendre à mieux gérer l'hétérogénéité, pardon, et développer la culture d'échange de pratiques entre les enseignants du réseau Éclair. On s'est dit que c'était vraiment l'opportunité, outre le travail intermétier entre nous, on a toujours eu depuis le début l'attention, en tout cas la volonté, d'être utile aux enseignants du réseau Éclair. On a pu se concentrer que sur l'élémentaire au départ, parce qu'on n'avait pas assez de M2 pour étendre ça au maternel. Mais on les a jamais trop oubliés quand même. Donc voilà, on se rencontrait à peu près une matinée par semaine quand on y arrivait. Mais la plupart du temps, c'était ça. Donc beaucoup voilà, d'échanges. Et pour arriver à ces deux objectifs-là, on s'est rapidement dit que ça ne sert à rien qu'on se rencontre un matin par semaine juste pour causer entre nous. Donc au début, on a trouvé que c'était un peu long. Et une fois qu'on s'est calé, on a tout de suite commencé à mettre des actions en place dès le mois de décembre. Deux professeurs engagés dans le GRA ont accepté d'être filmés sur une séance de maths pour l'une, une séance de français pour l'autre. Et ça nous a servi de support. Donc le but, c'était de filmer une séance. On a fait des montages. Le but, c'était de regarder la gestion de l'hétérogénéité. On était resté très, très vague.
Surtout de mettre en lien, enfin, de vraiment montrer les gestes professionnels qui passent généralement sous silence et qui fait qu'une classe fonctionne par voilà, des choses qui ne sont jamais dites. Et mettre en lumière ces petites choses, peut-être une tenue, une consigne dite vraiment, une clarté cognitive dans la consigne, essayer de dégager tous ces petits points qui apparaissent.
Donc ça a servi de support à des conférences PEDA sur le réseau Éclair et à des stages Éclair. On a des stages qui sont pour les professeurs en général par cycle ou par niveau, et ça nous a servi de support pour commencer à lancer les débats. On espérait faire émerger un débat entre les professeurs pour qu'ils échangent sur leurs gestes professionnels, sur leurs pratiques, dans un premier temps. Ça a été en partie réussi, en partie pas trop réussi, on va dire. Voilà, ça a été dur de leur faire comprendre qu'on ne montrait pas les films comme un exemple à suivre. Ouais. Et du coup, les collègues qui ont été filmés l'ont pas forcément toujours bien vécu non plus. Parce qu'en plus, ils étaient présents. Donc les autres, vu qu'on se connaît tous entre nous, n'osaient peut-être pas forcément dire non plus tout ce qu'ils pensaient ou tout ce qu'ils avaient remarqué. Donc il y a eu des choses. Il y a eu vraiment une confiance qui s'est installée, une prise de contact, des premiers échanges. Mais on n'était pas quand même tout à fait satisfaits. Voilà. Donc on s'est dit qu'il fallait aller plus loin. Donc on est allé plus loin. Et on a proposé, donc moyennant une organisation militaire, que chaque matinée où on était libéré de nos classes, on aille remplacer les enseignants qui souhaitaient aller observer la classe du voisin, d'une autre école, d'un autre niveau, toujours sur le réseau Éclair, parfois en maternelle. Donc un gros boulot voilà, d'enquête de qui veut aller où, avec qui, pour voir quoi, etc. On a essayé de leur dire ce qu'il fallait regarder. On a essayé de rester quand même sur la gestion de l'hétérogénéité. Et donc ça s'est mis, voilà, ça s'est mis en place sur la période 4, je crois.
Alors, ça s'intitule donc échange de pratiques, où les enseignants titulaires de leur classe vont aller observer d'autres classes. On vous montrera un petit peu plus loin l'organisation, qui est un petit peu complexe à mettre en place. Ça, juste pour que vous ayez un ordre d'idée, donc on couvre 77% des personnes d'éclair sur le cycle 2 et le cycle 3 ont accepté d'ouvrir leur classe. C'est énorme. On est passé de 50% sur l'ensemble du cycle 2, cycle 3 à 77%. Donc ce que disait Coralie, la confiance est là, les portes s'ouvrent et ça c'est vraiment une chose que l'on a gagnée.
Après, la partie 3.
Non, mais c'est par rapport à l'échange de pratiques. Quand on dit observation et concertation, ça signifie donc que dans un premier temps, de 8h30 à la récréation, les enseignants observent donc d'autres classes. Et après la récréation, il y a une concertation. L'enseignant qui est accepté d'être observé va être déchargé à son tour et donc toutes les personnes qui étaient dans la classe vont pouvoir un petit peu discuter de ce qu'ils ont vu avec le titulaire de la classe. Donc ça c'était aussi un point...
En présence d'un membre du groupe Recherche Action quand on le peut pour être un peu animateur de groupe.
Ami critique.
C'est ça. Donc voilà. Ça, on l'a fait la première année et puis on l'a refait cette année. Donc, vu qu'il y a eu plus de personnes, ça a duré plus longtemps. On a calculé hier soir.
On l'a fait 12
matinées.
12 semaines.
Voilà. 12 matinées où on va remplacer. Donc, ça veut dire que les 4... Maintenant, il y a une cinquième personne qui s'est... un maître surnuméraire qui s'est intégré au groupe cette année aussi. Donc, du coup, voilà, même moi, je me colle au remplacement. Fabienne va aux concertations. Chacun y met vraiment du sien, quoi. Donc il y a le travail de réflexion collaboratif entre nous et il y a vraiment, on reste toujours dans cette idée, on essaie au maximum de diffuser, essaimer sur le réseau. Un truc qu'on a fait en plus cette année aussi, c'est on a mis dans le temps institutionnel des conseils de cycle, que moi j'appelle plutôt concertation, où en fait on a décliné trois sous-thèmes par rapport à l'hétérogénéité, selon les besoins toujours des enseignants. Donc on a la gestion des élèves perturbateurs, on a la co-intervention et
la gestion, la co-intervention et le passage à l'écrit.
Et le passage à l'écrit, pardon. Voilà. Donc du coup, on a créé des groupes selon les besoins. Chaque enseignant va dans le groupe qu'il a choisi. Et nous, membres du GRA, on tente d'animer des débats pour l'échange de pratiques, puis essayer d'aller plus loin surtout. Plutôt sur de l'analyse et puis essayer de leur apporter, ça dans un second temps, quelques apports théoriques ou quelques ressources parce qu'ils sont assez demandeurs. Donc sur ces temps-là, ils sont convoqués. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a plus de monde. On a pareil, on a le même nombre de personnes, que ce soit du volontariat ou convocation. On a eu pas mal d'absents quand même la dernière fois au conseil de cycle. Yes. Donc ce sur quoi on est tous d'accord, parce qu'avant de venir, on a demandé quand même au groupe ce que ça leur apportait, ce qu'ils trouvaient de positif, etc. Donc on est quand même tous tombés d'accord sur le fait que le travailler ensemble, le fait qu'on soit plusieurs métiers au sein du groupe et qu'on travaille avec nos collègues sur tout le réseau, ça apporte des difficultés, certes, parfois de communication, mais c'est super riche, quoi. Voilà, on apprend vraiment... vraiment de la manière de penser de l'autre et puis voilà, de voir qu'un IEN peut penser aussi comme nous, qu'on peut avoir un avis différent d'un collègue qui a le même statut que nous et puis voilà, d'échanger là-dessus, c'est vraiment super important, quoi. Et puis on est quand même assez satisfait dans l'ensemble quand même, même si on n'en est pas encore là peut-être où on voudrait, mais après on laisse les groupes vivre leur vie aussi, c'est qu'il y a vraiment des échanges de gestes professionnels, quoi. Les portes s'ouvrent. Il y a beaucoup moins de peur du jugement. Il y en a encore, hein, mais je veux dire, beaucoup moins, beaucoup plus de gens volontaires pour s'intégrer dans nos actions, dans nos dispositifs, dans nos tentatives. Et voilà, les gens sont plutôt contents.
Alors, c'est pas tout rose, naturellement. Il y a des choses qui font débat. Alors, une organisation difficile, l'organisation difficile, c'est juste un exemple, voilà, où là, vous avez donc les enseignants GRA qui vont remplacer. Donc là, on est au nombre de 6, puisque... Et ils vont remplacer, donc... des classes du CP au CM2. Ça veut dire aussi que ces personnes qui sont déchargées le lundi acceptent quand même, quand on a par exemple un CM2, d'aller en CP. Ce qui, pour vous qui êtes majoritairement au collège, vous imaginez prof de français en 6e, voilà, et vous allez enseigner en terminale, c'est vrai que c'est un petit peu chaud des fois. Mais donc ça veut dire que voilà, ben, j'accepte, je vais remplacer à un moment donné une matinée en CM1, en CP, etc. Ça veut dire que ça c'est des problèmes vis-à-vis des membres du GRA, problèmes vis-à-vis des plannings pour les enseignants titulaires. Il faut faire attention chez nous, ben, à ce qu'il n'y ait pas la piscine, à ce qu'il n'y ait pas d'autres intervenants, que l'enseignant soit bien disponible le 13 janvier 2014. Voilà, et une fois qu'on s'est assuré de tout ça, ben, il faut après mettre une personne en face pour la concertation qui a lieu après la récréation. Donc ce jeu de planning est assez un petit peu...
chronophage.
Ouais, chronophage. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que là, il y a des petits soucis aussi institutionnels, sans le vouloir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous dit, par exemple, attention, le concours PE arrive, donc les M2 ne sont plus dans les classes. C'est ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, ne sont plus dans les classes. Donc, pas de remplaçants. Et là, tout le planning s'écroule. Donc, il faut rappeler les enseignants, il faut rappeler les membres du GRA, il faut tout annuler, etc. Il faut retrouver d'autres dates. Voilà, et ça, ces choses-là, c'est un petit peu voilà, fastidieux à gérer. Mais bon, on repousse et puis on essaie de trouver des solutions quand c'est annulé. Mais c'est vrai qu'il y a des petits couacs au niveau de l'institution aussi, parce qu'on a beau dire à un moment donné, attention, article 34, c'est bon, vous avez l'aval du recteur, etc. Tout le monde est là, mais dès l'instant où on nous dit, non, les M2 sont en révision, pas de remplaçant pour les membres du GRA, ben, faut tout arrêter et puis faut repousser. Voilà. Voilà, je reviens là. Il y a une autre difficulté, c'est par rapport au PE engagé dans le GRA. Donc, ce sont des enseignants chevronnés qui adorent leur classe. Donc, savoir que sur 4 jours, même si on passe au nouveau rythme l'année prochaine, un jour, donc, je laisse ma classe pour un M2, c'est déjà un petit peu difficile. Et le problème, c'est de savoir ce qui va se passer l'année prochaine. On entend des bruits, peut-être que les M2 seront là à mi-temps ou pas, je ne sais pas, j'ai pas du tout la réponse par rapport à ça, mais certains me disent, si jamais les M2 devaient passer à mi-temps sur nos classes, on arrête de faire d'être dans le groupe, parce que ma classe, voilà, je sais ce que je gagne, mais je sais aussi ce que je perds quand je laisse ma classe, que ce soit un remplaçant ou un M2, mais voilà, donc j'aime trop mes élèves pour laisser ma classe plus de temps, et donc voilà. Donc la gestion de leur propre classe pose aussi problème. Et puis le point, puisque là on anime, tout le monde anime des groupes de pairs, l'animation, bah, c'est difficile. C'est difficile. Ça veut dire comment on réagit face à en fonction de la problématique qui a été choisie, comment on rebondit sur ce qui a été dit, comment pour ne pas que ça tourne à une discussion de café, j'ai envie de dire, et pour qu'on soit vraiment au cœur du problème, ben, ça s'apprend. Ça s'apprend aussi grâce à des formations. Et puis Patrick est revenu nous redonner un petit coup de main vis-à-vis de l'animation de groupe, parce que des fois, on est un petit peu dans la panade quand on anime ces groupes de professionnels et sur des thématiques, que ce soit la co-intervention ou le passage à l'écrit, ou voilà, il faut avoir des billes théoriques, il faut aussi rebondir sur ce que les personnes disent, et c'est pas toujours évident. Voilà.
Tu as oublié la communication entre le GRA et les réseaux, c'est un gros point à neuf, on va dire. Ouais. C'est pas un gros point négatif, parce qu'on a quand même progressé, mais il manque clairement un maillon. On fait des comptes rendus chaque semaine. Pour nous. Et à chaque temps fort, quand il y a l'IAIPR ou quand Patrick Picard vient ou quand on réunit plus de monde, etc., donc quand même très régulièrement, au moins une fois par mois, on fait un plus gros compte-rendu et là, on l'envoie à tout le monde. Donc à tous les enseignants du réseau, directeurs, etc. Pour, selon nous, ne pas être transparent, qu'ils sachent comment on avance, même si des fois, ça a donné lieu à des mauvaises interprétations de mes phrases biscornues, peut-être de compte-rendu, mais du coup, il y a des gens qui, voilà, qui sont heurtés, il faut recadrer. C'est moi qui écris mal et c'est Fabienne qui recadre en général, après, une fois que j'ai fait les dégâts. Et donc, du coup, voilà, il y a ce sentiment qu'on essaie de faire au mieux, d'être transparent, de leur parler. On ne fait pas toujours nos enquêtes ou nos enquêtes de besoin, j'allais dire, juste en donnant une feuille ou un mail, quoi. On va les voir très régulièrement. D'ailleurs, il y a à peu près que ça qui marche pour avoir des retours. Ouais. Et en même temps, on en profite pour parler. Donc ça, les professeurs, ils font, les PE, ils font vraiment un super boulot avec ça, chacun dans leur classe. Parce qu'il y a un PE, il y a quatre écoles élémentaires, et il y a un PE dans les quatre écoles élémentaires. Plus moi qui passe un peu partout, et puis plus Fabienne qui est souvent dans une. Donc du coup, mais voilà, il manque quand même un truc, parce qu'on a quand même des retours de « mais qu'est-ce que vous faites exactement là ?» Moins cette année, hein, mais la première année, à fond. Quoi. Puis pourquoi c'est Christophe qui a été choisi pour aller à Poitiers, et puis pour être dans le GRA, et puis pourquoi c'est pas moi ? Et moi aussi, je m'étais inscrite, et puis moi aussi, ça m'intéressait, et puis c'est toujours les mêmes, pourquoi ça tourne pas tous les ans, etc. Et puis c'est légitime, hein, d'ailleurs, voilà, faut écouter tout ça. Mais donc, du coup, on a beau essayer de dire, de faire au mieux, voilà, on n'a toujours pas non plus toutes les clés pour communiquer au top, j'ai l'impression. Donc, encore des progrès à faire là-dessus.
Voilà, alors les perspectives. C'est notre gros point, c'est qu'on est dans l'échange de pratiques, on est dans les gestes professionnels, mais comment passer de cet échange à véritablement une analyse beaucoup plus fine? Voilà, on travaille là cette année, on n'a pas les réponses, hein, mais on se penche sur cette problématique pour que ces pratiques évoluent, pour vraiment distiller des choses qui se passent pour le mieux. L'autre point, évaluer le bénéfice de ce dispositif sur les élèves, parce que, comme on l'a dit aussi hier, on travaille pour les élèves, donc quel bénéfice? Et ça... Pour l'instant, on ne sait pas. C'est comme quand on travaille en co-intervention, on sait qu'il y a des réussites. Maintenant, est-ce que c'est dû à la co-intervention? Point d'interrogation. Puis je ne sais pas si un jour on pourra avoir une réponse par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, le bénéfice sur les élèves, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Le problème aussi de pérenniser cette culture du travailler ensemble. Voilà, on a lancé une dynamique, on sait qu'elle est là. On sait que ça marche, on sait que les portes de classe s'ouvrent, on sait que les gens commencent à discuter. Maintenant, comment faire pour que ça devienne dans le temps une chose réelle? Voilà, est-ce que quand le GRA ou ce groupe ne se réunira plus, est-ce que ça va tomber aux oubliettes? Comment faire pour qu'il y ait toujours cette dynamique? Voilà. Et puis,
ce qu'il faut dire quand même, c'est que par rapport au début, où chaque réunion la première année se faisait avec l'IEN et l'IAIPR, on les a perdus tous les deux quasiment cette année. Ils sont là que dans les temps forts. Mais c'est pas, je le dis sans critique du tout, parce qu'ils ont un peu autre chose à faire aussi. Mais comme tu dis, des fois, il y a un peu une sorte de perte de mémoire. Voilà quoi, c'est que la première année, tout le monde est à fond. Et puis la deuxième, on oublie de nous prévenir que les M2, ils sont pas là, alors que ça fait 6 mois qu'on le sait. Donc voilà. Enfin, ça, c'est une critique, du coup. Mais enfin, je veux dire, voilà, c'est pour ça, avec quels moyens, c'est pas revendiquer quelque chose qui nous est dû, c'est que, voilà, on les a eus, vu qu'on est encore dans l'article 34, encore un an, on peut espérer que ça peut poursuivre, mais après...
Et notre autre objectif, puisqu'on a polarisé sur les cycles 2, cycle 3, c'est d'intégrer la maternelle et de voir comment elle va s'intégrer. Voilà.
Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu les préoccupations et les questions que Patrick vous avait glissées à l'oreille un petit peu avant l'intervention. Voilà. Est-ce que vous auriez donc des questions, des interrogations sur ce qui a permis ce travail, sur des détails qui n'ont pas été dits mais qui vous semblent importants et dont il faudrait lever l'implicite? Voilà.
Alors, une information, chers collègues. Effectivement, les M2 seront à mi-temps l'année prochaine. Ça, c'est sûr, et ce sera statutaire. Une question en revanche, il y a une fonction que vous n'avez quasiment pas citée dans votre discours, c'est celle de directeur d'école. Mmh. quelle position ou quel rôle jouent les directeurs d'école dans votre dispositif ?
Alors déjà, tous les directeurs d'école sont invités à chaque temps fort. Enfin, ce qu'on appelle temps fort, c'est quand Patrick Picard vient, en gros, quoi, et où on se pose, où on est obligé de se poser les bonnes questions, on peut plus y échapper. Donc là, tous les directeurs élémentaires sont invités et sont présents. Oh. Le directeur d'école élémentaire des charges à temps plein qui est présent, il vient le plus possible, mais ce sont des grosses écoles avec pas mal de difficultés, donc voilà. Et à chaque fois, après ça c'est plutôt lié à sa personnalité, pas forcément à sa fonction, mais il nous aide quand même bien à prendre du recul par rapport à notre quotidien sur le terrain avec les élèves. À chaque fois, il décentre un peu notre regard pour faire avancer. C'est super, super précieux. Après, est-ce que c'est dû à sa fonction ou à son caractère?
Il faut dire qu'il y a, sur ce territoire, il y a au moins les trois quarts des directeurs qui sont des gens très engagés, très impliqués, très reconnus, qui sont vraiment les têtes de pont dans leurs écoles. Et on voit bien la double chose. C'est-à-dire que, à la fois, ce sont des recours très, très importants, mais en même temps, comme vous le dites, le groupe re-questionne leur posture professionnelle parce que ça les oblige. Ils le font déjà, et ce sont déjà des animateurs pédagogiques, mais voilà, ça les oblige peut-être à creuser un peu plus là-dessus. Et en même temps, ça peut être aussi quelque chose qui va être un peu anxiogène parce que, par exemple, à la dernière fois qu'on a travaillé sur cette question-là, il y avait des questions qui avaient été posées, vous savez, dans les petits moments de débriefing qu'ils nous ont présentés. On a été dans la classe, puis on débriefe à plusieurs sur ce qui se passe. Ils avaient été frappés, par exemple, sur le fait qu'une école A n'avait pas du tout la même position que l'école B sur la question du redoublement. À quel moment on laisse passer des élèves, et donc à quel moment on se retrouve en CE1 ou en CE2 avec une très grosse hétérogénéité en maîtrise de la lecture, par exemple. Et du coup, il y avait une discussion qui a eu un impact dans les écoles du réseau sur est-ce que c'est bien aux échanges du groupe dans ce cadre-là que de questionner les politiques d'école, par exemple. Et du coup, il y a des directeurs qui, à un moment donné, peuvent prendre ça dans la figure et re-questionner la conseillère pédagogique en disant « Mais attends, en quoi est-ce que vous faites là ? Ça a un impact sur... » Et du coup, ça a permis qu'on en reparle collectivement et... Ça règle pas les questions, mais ça réinterroge ces idées de la culture commune et de c'est quoi le niveau pertinent de pilotage entre la circo, le réseau, l'école. Et voilà. Et donc, c'est aussi cette idée que cet intermétier qui se construit, hein, j'en profite pour dire que elles ont fait l'effort il y a quelques mois d'écrire ce qu'elles nous racontent là, et vous le trouverez sur le site du Centre Alain Savary, et elles parlent aussi de leur collaboration entre elles deux. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Entre le Cordo qui est peut-être plus près des écoles et la conseillère pédagogique qui est plus près de l'IEN, voilà, comment ça se passe cette chose-là. Mais en tout cas, vous avez raison d'insister sur le fait que les directeurs d'école sont en plein dans l'histoire et parfois aussi tiraillés. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, mais... Merci de cette question. Peut-être d'autres questions comme ça encore pour aller dans les détails, vous dire si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous auriez envie de savoir en plus ou...
Oui, je m'interroge sur ces moments d'échange, de pratique. Quel garde-fou, enfin, en termes de méthodologie, sur l'animation de ces échanges, sur parce que vous l'avez évoqué plusieurs fois, il y a des craintes, il y a des risques. Faut pas qu'il y ait du jugement, il faut que ça soit productif. Donc, comment vous avez préparé ça? Comment, si les animateurs ont été formés, sur quel accompagnement? Enfin, voilà. Concrètement, comment vous avez construit ces échanges et cette animation d'échanges?
Bah déjà, cette animation d'échanges, elle est basée sur le volontariat, ce qui déjà donne une garantie que les personnes qui s'y engagent ont des envies de voir et d'apprendre, et voilà, d'une part. D'autre part, à chaque fois, on s'est beaucoup interrogé sur est-ce qu'il fallait une grille d'observation avec des objectifs et des points précis, des gestes précis à regarder, qui décentrent peut-être un peu complètement même du jugement de la personne observée. Juste regarder ses gestes ou un support, un outil. Et la gestion de l'hétérogénéité, en l'occurrence, ça s'y prête tout à fait bien. Donc voilà, et parfois il y a eu des grilles d'observation très courtes, d'autres fois non, mais à chaque fois, là les dernières en l'occurrence, il n'y a pas eu de grille, parce que maintenant ils font partie d'un groupe avec un thème précis, donc ce qu'on disait tout à l'heure, travailler à plusieurs adultes dans une classe, ou bien les élèves perturbateurs, et ils savent ce qu'ils vont y voir pour préparer le prochain conseil de cycle et concertation où on va se baser sur ce qu'ils ont vu. Donc on leur a demandé un point qui les a étonnés, un point qui referait dans leur classe, des choses comme ça. Donc à chaque fois, ils y vont quand même avec un objectif. Mmh. Et le but, on a aussi, on leur propose, ça aussi c'est sur s'ils sont d'accord, qu'il y ait un membre du GRA qui assiste à leur concertation après. C'est-à-dire c'est quelqu'un de neutre qui n'a pas assisté à l'échange de pratiques, qui n'a pas assisté à l'observation. Mais pareil, qui décentre le regard et qui dit « alors qu'est-ce que vous avez vu ?» et puis qui, se, voilà, qui reste sur les objectifs fixés pour éviter tout débordement. Et enfin, en même temps, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'il n'y a pas de débordement a priori. Non, mais voilà, il peut y avoir des digressions telles qu'on sorte complètement du sujet ou alors des instits qui se retrouvent entre eux puis qui finissent par dire oh, « t'as vu la petite Mélina, elle a bien progressé ». Donc voilà, ça c'est bien, mais c'était pas, c'est pas le but. Donc voilà, on est là pour ça.
Il y a quelque chose aussi sur lequel on a essayé d'outiller les membres du groupe de recherche, c'est apprendre à décrypter des vidéos, par exemple. Voilà. Peut-être tu peux dire...
Et analyser les gestes professionnels, véritablement. Donc, dans l'entretien, il y aura ce stade-là. Mais c'est vrai qu'on est parti des vidéos, et ça a été... Voilà, ça, c'était l'année passée, et ça a été une étape essentielle pour être un peu plus efficace lors des concertations après les observations.
Quelque chose, par exemple, comme apprendre à décrire... Avant de juger, vous voyez, c'est des choses, comprendre ce qui se passe, dire ce qui se passe, si vous voulez, j'ai éventuellement des éléments là-dessus, on pourra revenir avec Néopas là-dessus, mais dire ce qui se passe, décrire, comprendre le mobile d'agir de la personne, pourquoi fait-elle ce qu'elle fait, présumer que ce qu'elle fait est cohérent, plutôt que de dire, ah ben moi j'aurais pas fait ça comme ça, d'abord... Prendre le temps de décrire pour comprendre, par exemple, c'est quelque chose qui, au dire des animateurs, quand on avait travaillé ça, vous a aidé après à animer les situations. Enfin, je ne sais pas si...
Oui, comprendre pourquoi on fait ça, voilà, c'est essentiel. C'est difficile, mais ça vient progressivement.
Oui, rebonjour. Vous nous avez dit que vous n'avez pas pu mesurer les effets sur les apprentissages des élèves. Y a-t-il eu des effets sur la manière d'enseigner des enseignants ? Des changements de pratique ou des expérimentations après avoir vu des choses dans d'autres classes.
On sait que, enfin, suite au conseil de cycle, aux échanges, etc. Enfin, moi, j'ai assisté à ça. Alors après, je suis pas allée vérifier dans la classe. Ce sera peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse d'ailleurs. Voilà, des gestes professionnels qui se sont échangés. Là, moi, je suis dans le, j'anime un groupe sur la gestion des élèves générateurs de situations de perturbations scolaires. Je vais y arriver. Et donc, du coup, il y a eu vraiment des échanges sur, moi, je fais comme ça parce que ça semble, voilà, il semble que ça le calme et que ça le recentre, etc. Et les gens qui disent, ah bah oui, je rentre, je le fais, quoi. Après, honnêtement, je ne suis pas allée voir.
Et là, j'ai été appelée dernièrement, c'est quand même la première fois que ça m'est arrivé. Oui, donc, une collègue qui est sur Éclair depuis un certain nombre d'années, qui m'a dit, Fabienne, viens voir. Je voudrais que... j'ai essayé quelque chose que j'avais entendu. Je voudrais avoir ton point de vue. Je voudrais qu'on retravaille ensemble sur... C'était de la production d'écrits au CEP. Voilà, donc ça veut bien dire à un moment donné, alors on ne sait pas le nombre, donc effectivement il faudrait peut-être, aller voir plus souvent dans les classes, dans toutes les classes, pour voir s'il y a eu des petits changements, mais rien que ça, bon voilà, ça veut dire qu'au moins, il y a au moins une personne qui a essayé, mais je suis persuadée qu'il y en a un peu plus.
Après, il faut savoir aussi que dans ces territoires-là, ce dispositif-là, c'est un parmi tant d'autres. Donc, les pratiques, elles évoluent. Vous disiez, par exemple, que il y avait des écoles en Éclair qui avaient des évolutions de résultats qui étaient assez nettes dans les 10 dernières années. Mais qu'est-ce qui a un impact sur quoi? Est-ce que c'est la mise en place des maîtres surnuméraires? Est-ce que c'est des organisations? Est-ce que c'est des débats internes dans l'école? Dans tous les territoires de l'éducation prioritaire, il n'y a pas une action. Il y a des plusieurs actions qui chacune contribuent à ces dynamiques collectives. Donc je pense que c'est, enfin, identifier ce qui revient à chacune des actions, c'est toujours un peu délicat, je pense. Hein.
Vous intervenez au niveau du premier degré. Et quid du collège? Comment le collège se positionne par rapport à votre projet? Ils sont informés, je suppose.
Oui, exactement.
Il n'y a pas d'écho?
Non.
Enfin, bon, il y a eu la liaison. Non, mais parce que l'article 34. Alors, il y a aussi un article 34, oui, liaison CM2 6e, qui va un peu s'appuyer sur ce modèle-là, dans le sens où les professeurs du collège vont aller dans les classes de CM2 et les maîtres de CM2 vont assister à des cours au collège. Mais bon, je pense que voilà, ça se fait également un peu partout. Donc, Voilà, la transposition s'est faite sur la liaison CM2 6e. Après.
Bah après, c'est tout. Ouais, c'est on n'a pas inventé quelque chose. Pas grand-chose.
Est-ce qu'on pourrait avoir une explication pourquoi ça...
J'allais le dire.
Bon, je sais pas. Peut-être une entente toute relative entre le principal du collège et l'IEN, peut-être. Où la communication est pas toujours facile, on va dire. Même s'il n'y a pas de conflit majeur, mais de communication majeure non plus. Donc voilà. Et voilà, le collège, en tout cas, le principal est ses adjoints le savent, mais sinon, je pense que la majeure partie des gens au collège ne savent pas que le groupe Recherche Action existe.
Donc ce que tu dis là, moi ça me semble très très important, parce que dans un certain nombre de réseaux, de ma connaissance, le blocage entre guillemets du travail commun entre le premier degré et le collège, il se heurte bien au problème de la collaboration entre l'IEN et le chef d'établissement.
Tu es en train de faire la transition pour la suite.
Là. C'est beau.
Mais c'est bien une des questions qu'on a à traiter dans ces trois jours.
Monsieur, dans le fond, mais le temps que le micro passe, il y a vraiment quelque chose qui est important aussi pour moi, qui est croisé un petit peu ce territoire, c'est que le collège, il a plein de projets à lui, animés par le chef d'établissement à sa manière. Et à partir de ce moment-là, le chef d'établissement, il a ses préoccupations, ses dispositifs, ses priorités. Et c'est très clair que dans la mesure où l'IEN de votre circo a, sur ce dispositif, un pilotage, on va dire, léger. C'est-à-dire qu'il est bienveillant. Lorsque les inspecteurs généraux ont été visiter votre site, c'est vraiment ce qu'ils ont retenu, que l'IEN avait un pilotage bienveillant, mais en fait, il est peu présent au quotidien dans le fonctionnement. Il aide, il laisse les moyens, il organise, il vous autorise à venir ici, etc. Mais voilà, il n'est pas la cheville ouvrière par rapport à ce qu'on verra cet après-midi où on verra un IEN qui est le moteur essentiel du projet. Là, c'est très clair que le moteur du projet, c'est l'intermédiaire que vous avez fabriqué. Il est bienveillant, mais il n'est pas moteur. Et du coup, je pense que on n'est pas dans un contexte aussi où l'IEN va beaucoup articuler le groupe avec son collègue du second degré.
Tout à fait, c'est ça.
Oui, bonjour. Voilà, une question. Dans le cadre du GRA, vous parliez de 4 collègues qui étaient remplacés par des M2. J'aurais voulu savoir comment vous choisissiez ces collègues, s'il y avait un choix, est-ce que c'est comment vous faisiez par rapport
à ça. C'est des photos en fait.
Voilà.
C'est un casting sur photo. Alors ça, franchement, comment il a choisi?
C'est ce que j'ai dit un peu au début. Non, on a dit juste au début, c'était des collègues qui sont donc des enseignants chevronnés, ça c'était sûr. Donc là, depuis un certain nombre d'années, au minimum 10 ans, ça s'est fait, voilà. Et l'autre paramètre, c'est vraiment des personnes, voilà, qui se remettent en question, quoi. Voilà, qui n'ont pas la science infuse, qui acceptent de se dire, ben voilà, j'ai essayé ça dans ma classe, ça marche pas, je vais essayer autre chose. J'accepte d'ouvrir ma porte, j'accepte d'être filmée, voilà. Et c'est essentiellement, mais il y en a d'autres. Hein, c'était pas que 4 personnes. Mais après, c'est l'IEN qui a tranché. Voilà.
Et après, il peut y avoir d'autres personnes aussi qui disent bah, « Pourquoi pas moi ?» hein, les collègues l'ont cité. Et j'attire votre attention aussi sur le fait qu'elles ont mentionné quelque chose qui finalement est assez rare, c'est que en fait, ils mutualisent les ressources. C'est-à-dire les PE qui sont libérés, plus la cordo, plus la concierge pédagogique, acceptent de devenir momentanément remplaçants pendant le temps où les collègues sont déchargés pour aller faire autre chose. Donc là, la polyvalence, elle est à son comble. Hein, c'est-à-dire que, y compris la conseillère pédagogique, elle accepte devant les autres collègues de dire « Je vais aller remplacer un CM2 en production écrite et peut-être je vais pas être au top dans une école qui est compliquée. » Et oui, voilà, la veille, elle dort mal aussi, quoi, des fois.
Elle est toujours au top. Mais ça s'est passé.
Dernière question, on va switcher ensuite.
Bonjour. Donc moi j'aurais une question sur, si je reviens sur la thématique, c'est repérage et traitement. Et j'aimerais savoir comment ce temps entre le repérage et le traitement s'est-il articulé pour construire de la formation, je dirais in situ et tout au long de l'expérimentation. Parce que là j'ai du mal à situer le temps de travail, au final qui sert au repérage, et ensuite le temps de traitement, je pense, dans le groupe et dans la concertation, pour le réinvestir ensuite plus largement sur le réseau. Est-ce que vous l'avez mis en œuvre et si oui, comment ?
Bonne question.
Oui, et vaste question. Alors,
je te laisse te débrouiller.
Oui, non, merci.
C'est aussi le développement de... Vous aviez une préoccupation au départ, si je peux juste... Je pense que la principale... Ce que moi, je vois bouger, c'est qu'au départ, ils sont sur une macro-thématique. Gérer l'hétérogénéité. Et ils se rendent compte, au fur et à mesure, que ce machin-là n'est pas opératoire. C'est-à-dire que cette question de l'hétérogénéité, elle est trop large pour être attrapée. Et au fur et à mesure que ça résiste dans l'activité du groupe, hein, dans l'activité du groupe intermétier, au fur et à mesure que ça résiste, ils se disent, il faut qu'on prenne des objets plus petits que ça. Et ils se mettent à dire, on va regarder les élèves perturbateurs, la production des cris, le troisième, je ne sais plus, la co-intervention, c'est-à-dire des choses qui sont plus réduites. Mais même quand ils se mettent à focaliser ça sur des choses réduites, ils s'aperçoivent qu'en fait, il faut encore descendre. C'est-à-dire dans le groupe production des cris, ils se mettent à dire, mais en fait, quand ils font les petites animations, quand on est en production des cris, de quoi on parle en fait? On parle de graphie, on parle de la phrase du jour, on parle de faire des grands textes. C'est-à-dire au fur et à mesure qui focalisent l'attention des maîtres sur ces gestes professionnels ordinaires, ils se mettent à rentrer de plus en plus près des problèmes didactiques. Et là, c'est bien ce qu'ils nous ont dit, c'est que après, ils ont une difficulté aussi. C'est-à-dire qu'ils auraient besoin qu'il y ait quelqu'un qui prenne, sinon le relais, mais qui travaille avec eux sur ces analyses des problèmes didactiques. Ce qu'on a vu hier, par exemple, sur la nature des difficultés des élèves, les membres du GRA, ils sont pas tous... Enfin, on a fait aussi de la culturation sur ces choses-là. C'est-à-dire que ça pose aussi la question de quelles ressources on a en termes de formateurs. Et Monsieur Joly, qui vient d'arriver, nous dira sûrement quelque chose autour de ces questions-là. Hein, c'est-à-dire que quand on est en anime de circo, quand on est dans un pilotage local, et qu'on se dit, bon, il faut travailler à faire du collectif, il faut rentrer dans les pratiques, rentrer sur l'ordinaire du travail. À un moment donné, se pose la question des ressources formatives et d'analyse didactique qu'on va faire des situations. C'est-à-dire que les deux choses sont bien toujours enchâssées. Les situations d'apprentissage pour les élèves, les situations d'enseignement pour les maîtres. Et ce qu'on a dit hier, ce qu'essaye de faire le groupe, enfin le bureau de l'éducation prioritaire, dans fabriquer des ressources en académie qui nous aident à ces choses-là. C'est qu'aujourd'hui, eux, quand ils appellent le niveau rectoral pour dire qu'est-ce que vous avez en machine pour nous amener des formateurs sur cette question-là, ils ont des formateurs spécialisés, de type les enfants primo-arrivants, le CASNAV, etc. Mais des gens qui viennent travailler avec eux, c'est-à-dire en gros la même chose qu'eux, mais un peu plus formés, ça pour l'instant, ça n'existe pas dans les académies. Je pense, moi, que c'est un levier très très important. C'est-à-dire que si on n'a pas des gens capables d'aider ces groupes-là, il y a un vrai risque, comme elles l'ont dit, que une fois l'enthousiasme du projet un peu passé, que le groupe s'étiole. Et les questions qu'elle se pose là, au bout de 2 ans, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on va devenir? Et cette question de durée dans les dispositifs, elle est vraiment importante. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme possibilité pour les autorités académiques de rebondir, de les aider, etc. C'est bien cette question-là qu'on se pose là collectivement. C'est bien là-dessus que la refondation de l'éducation prioritaire discute. Et dans le point « former des formateurs », c'est vraiment ça qui va être l'enjeu, et j'insiste là-dessus parce que nous avons tous des responsabilités en académie là-dessus. C'est ce qu'on va être capable de faire en académie, ce qu'on va être capable de réclamer ou de construire, qui va faire que ces choses-là, elles vont pouvoir se poursuivre. Ouais. Et donc, en fait, il faut bien voir que dans leur exemple, là, ça me semble typique. Hein, de voilà, c'est pas parce qu'il y a cette génération spontanée, on va dire même accompagnée, que les choses s'installent dans le pérenne. Vous avez noté quand même que voilà, quand on est à plus de 3/4 des enseignants qui ouvrent leur classe et qui acceptent de participer à un échange, enfin, on va dire en 18 mois, vous avez gagné quelque chose de formidable, Je connais peu d'endroits où on a ce niveau d'engagement des enseignants. Et pour autant, c'est jamais fini. C'est jamais gagné. Je vous propose qu'on vous remercie parce que je voudrais que Marie-Claire ait du temps aussi pour ça. Merci beaucoup. Merci. De votre parler vrai, surtout, Madame Rérol, dans un rare du 18e à Paris.
Bien. Alors moi, je vais essayer de vous brosser l'état d'un réseau qui ne fonctionne pas tel que j'aurais envie qu'il fonctionne. je dis les choses telles qu'elles sont. Alors le réseau Gérard Philippe, c'est un réseau qui est situé dans le 18e arrondissement de Paris. J'essaie de vous décrire un petit peu géographiquement comment il est situé. Le collège est entouré de deux écoles polyvalentes, une école élémentaire et une école maternelle, à proximité dans un rayon de 100 mètres. Et de l'autre côté du boulevard Ornano, qui est un boulevard important et qui donne de l'autre côté sur la butte Montmartre, deux écoles, une école maternelle et une école élémentaire. Alors c'est pas par hasard que je vous dis que c'est de l'autre côté du boulevard Ornano, parce que c'est vraiment une frontière et que les parents d'élèves qui vont dans l'école élémentaire qui s'appelle Saint-Isère ne viennent quasiment pas au collège. Voilà, ils n'envoient absolument pas leurs enfants au collège, donc ça représente un élève sur cinq qui vient au collège. Donc c'est un peu difficile de travailler en réseau avec les enseignants. Sur les autres écoles qui existent autour du collège, seule une école polyvalente Poissonnier nous envoie la totalité de ses élèves. L'autre école partage les effectifs entre le collège Gérard Philippe et le collège Marie Curie, qui est situé à 50 mètres du collège Gérard Philippe. Donc vous voyez qu'on est on est très très serré, qui lui est en RRS, qui a une CHAM musique, et que tous les parents qui souhaitent rester entre soi vont tous demander la CHAM musique à Marie Curie. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a déjà la moitié des élèves de l'école championnée qui viennent au collège. Donc c'est un tout petit peu compliqué, ne serait-ce que en raison de la géographie. En ce qui concerne un petit peu l'historique, moi je suis arrivée en 2010 dans le réseau. Et on m'a dépeint le réseau comme un réseau qui fonctionnait pas parce que le chef d'établissement principal du collège n'était pas impliqué, que c'est un réseau quand même qui fonctionnait relativement bien. Ceci dit, Bruno Suchot, avait fait un rapport désastreux sur le fonctionnement du réseau, donc ça m'avait quand même un tout petit peu interpellée. Et en voyant le fonctionnement, c'était deux conférences par an en interdegré, avec des intervenants de qualité, hein, mais les enseignants se réunissaient 3 heures deux fois par an, et puis ensuite échangeaient pendant une demi-heure, et ensuite ils retournaient dans leur classe sans effet. Et puis le seul lien qui existait, c'était les référents, puisqu'on était toujours en réseau Ambition Réussite, les professeurs référents qui, eux, allaient dans le premier degré et qui portaient des projets clés en main. C'est-à-dire que l'enseignant du collège arrivait dans l'école élémentaire avec son atelier scientifique ou avec son compte monté et faisait travailler les élèves de l'école élémentaire. Voilà. Alors quand on est passé en éclair, ça a été un changement de décor, puisque les enseignants référents n'étaient plus enseignants référents, qu'ils devenaient non pas des préfets des études, parce que sur Paris on les appelle professeurs coordonnateurs de niveau, donc recentrés sur le collège. Les assistants pédagogiques n'étaient plus distribués à volonté dans les écoles, enfin dans le premier degré. Il fallait que les directeurs présentent des projets pédagogiques où l'assistant pédagogique intervenait vraiment pour aider l'enseignant. Il n'était pas là pour le remplacer, parce qu'avant, l'assistant pédagogique était là pour valider le B2I. Voilà, les choses matérielles qui n'intéressaient pas forcément les enseignants du premier degré. Alors ça a quand même un peu crispé les relations, tout ça, c'est un peu crispé les relations avec le collège, où les enseignants du premier degré se sont sentis lésés. Ils n'avaient plus de lien avec le collège, mais c'était le collège qui voulait imposer sa loi, donc c'était un petit peu compliqué. En ce qui concerne le pilotage, alors en 4 ans, 2 IEN, un IEN qui était dans un premier temps partant sur la retraite, donc qui était bienveillant, hein, on a entendu tout à l'heure, et c'est vrai, il était bienveillant, il laissait un petit peu faire les choses, ce qui n'a pas été du tout le cas sur le deuxième IEN qui est arrivé. Là, je suis dans la critique, hein, mais ça pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout la même conception du réseau. C'est extrêmement difficile de travailler, il y a un problème de disponibilité, il y a un problème de rancœur par rapport à la position de l'IEN et du chef d'établissement, puisque les chefs d'établissement ont une indemnité en éclair et que les IEN n'ont pas d'indemnité. Donc il y a quand même toute une rancœur par rapport au fonctionnement de l'éducation prioritaire qui est bloquant, avec un agenda de l'IEN
qui est très bloquant. C'est-à-dire que quand on veut des rendez-vous, bah, il faut s'y prendre presque 3 mois à l'avance et on n'est même pas sûr que le jour du rendez-vous, la personne soit là. Donc c'est un petit peu compliqué. Difficile aussi pour la coordonnatrice, puisqu'en 4 ans, on a eu 3 coordonnatrices. La dernière, elle est là depuis 2 ans, mais elle a eu un congé de maternité quasiment sur l'année dernière. Donc elle a du mal à se positionner entre l'IEN et chez l'établissement, puisque bah, elle souhaite être loyale, elle est loyale. Donc c'est vrai qu'elle essaye de faire fonctionner les choses, ce qui n'est pas toujours facile pour elle. C'est difficile aussi pour elle d'intervenir avec les directeurs d'école, puisque la conception de la coordonnatrice aux yeux de l'IEN n'est pas forcément une coordonnatrice, mais c'est plutôt une secrétaire. Voilà, c'est quelqu'un qui fait passer le message entre l'IEN et les directeurs. Comment ça ? Elle est CPE d'origine, donc du second degré. Voilà, mais c'est quelqu'un qui est très très impliqué. Je veux dire qu'il n'y a pas de souci du tout. Sur les équipes enseignantes, alors là aussi c'est compliqué. Le recrutement n'est pas tout à fait le même puisque les enseignants du premier degré ne sont pas recrutés sur profil. Les enseignants du collège sont recrutés sur profil, mais c'est une arme à double tranchant, à savoir que quand les enseignants arrivent, sont mutés sur Paris. Ils n'ont pas du tout envie de postuler pour un éclair. C'est nettement plus élogieux d'aller sur Louis le Grand, Henri IV, Chaptal que d'aller sur Gérard Philippe ou Clémenceau. Donc on se retrouve cette année avec 15 contractuels sur 36 enseignants, mais au collège. Sur les 36 enseignants, enfin le noyau fort est là. Et ça permet de tourner vraiment et d'enrôler aussi certains contractuels. Mais c'est pas simple. Alors c'est pas simple non plus de travailler en réseau avec les contractuels parce qu'ils sont là pour une année et ils sont pas forcément investis. Donc on a ce problème. On a le problème également sur Paris de l'aménagement des rythmes scolaires. Vous avez peut-être entendu parler parce que ça ça bouge un peu les choses, entre autres sur Paris, et ça crispé aussi les enseignants du premier degré qui parlent de violence de l'institution, etc. Donc, pas possible de travailler. Sur les assises à Paris, lorsqu'on a fait les assises au niveau du réseau, il y a des classes qui se sont mises en marge complètement du réseau, qui ont voulu travailler toutes seules dans leur coin et qui ont ressorti des synthèses du genre « on ne veut plus travailler en réseau, on n'est pas prof de réseau et on veut rester dans nos classes ». Voilà. Donc vous voyez que c'est, comme dirait Patrick Picard, quelques questions délicates. C'est plus que délicate. Alors ceci dit, il y a quand même des choses qui se font. Hein, faut pas. Je suis pas là non plus par hasard. Les choses, elles se font alors un petit peu déjà elles se font sur le collège, et puis elles se font un petit peu en dehors du réseau, mais avec des implications un petit peu sur le réseau. Alors je me dis qu'au niveau du collège, donc en 2010, quand je suis arrivée, on était en plein remaniement pédagogique, à savoir travail par compétences. Sur Paris, c'était pas acquis du tout. Hein. Les enseignants voyaient le travail par compétence, c'était le LPC, on ne voyait que le LPC. Et pour leur parler de compétences, je ne voyais qu'une seule personne capable de le faire, c'était Bernard Rey. Donc, nous avons invité Bernard Rey en conférence au niveau du réseau, et les enseignants du premier et du second degré lui ont demandé de travailler avec lui. Donc, pendant un an, les enseignants ont travaillé avec Bernard Rey qui supervisait le travail. Il venait une fois par mois travailler avec les enseignants. Difficulté pour le premier degré, parce qu'évidemment, il faut décharger les enseignants du premier degré. L'IEN n'avait pas demandé les remplaçants ou les remplaçants n'étaient pas disponibles. Ça a crispé les directeurs qui n'ont pas libéré les enseignants du premier degré, sauf une école. Alors la directrice était une ancienne formatrice UFM, donc ceci explique peut-être cela, mais qui a libéré effectivement un enseignant. Donc il y a une seule enseignante du premier, une seule PE qui est venue travailler avec Bernard Rey pendant un an. On a reconduit, alors après je vous donnerai l'impact, on a reconduit le dispositif l'année suivante, non pas avec Bernard Rey parce qu'il était surchargé, mais avec une autre chercheuse, une de ses collègues, qui est Sylvie Van Lint, qui a, elle, une autre approche du travail par compétence. C'était une approche collective, c'est travailler en interdisciplinarité. Là, on a toujours un PE qui intervient et les enseignants du collège. Mais ça a débloqué des choses au niveau du collège, ça. Là, on est rentré dans la pédagogie. les enseignants travaillent par compétences. Les enseignants de mathématiques ont été les premiers à lancer le travail par compétences, à mettre en place des modules. C'est-à-dire que par niveau, les élèves étaient dispatchés par compétences et travaillaient à la résolution de problèmes par compétences. On a quand même abouti en 4 ans, on est parti, si on peut avoir une évaluation par rapport à ça, de taux au brevet de 60%. L'année dernière, on est passé à 84%. Voilà. Ce qui fait qu'on ne rentre même plus dans les critères de l'éducation prioritaire. Il va peut-être falloir qu'on revoie notre copie, mais c'était bien au moins l'objectif, ça, de progresser. Bon, rassurez-moi. Travail par compétence, donc ça a débloqué des choses. Ça a commencé par les mathématiques. Ensuite, on a essayé de faire du lien avec le premier degré, parce que c'est quand même toujours, je veux dire que c'est une de mes obsessions, de travailler avec le premier degré. Si jamais je n'y arrive pas avec les UN, j'essaie d'y arriver avec les directeurs et avec les quelques enseignants qu'on peut essayer de récupérer, et avec des élèves de troisième qui construisaient des exercices, des problèmes de mathématiques qu'ils proposaient au CM2. Alors toujours avec la même école polyvalente, mais il y a des choses qui se mettaient en place. À côté de ça, les enseignants du collège, donc, on réfléchit. Et on est à l'heure actuelle sur quasiment toutes les disciplines à travailler par compétences. On n'est pas toujours dans l'interdisciplinarité, mais au moins par discipline, tout le monde travaille par compétences. Ça a permis également de mettre en place un dispositif de prévention du décrochage scolaire sur le niveau 5e, 4e. Alors, si vous voulez des explications, je détaillerai, mais qui fonctionne, qui est externalisé, mais qui est uniquement par compétence, avec une évaluation par compétence, et les documents sont transmis au conseil de classe. Donc là, on a un mélange à la fois de notes et d'évaluation aussi par compétence. Voilà. Et sur une classe à l'heure actuelle de 5e, les enseignants travaillent et par compétence, et évaluent par compétence, et... Par contre, ont maintenu les notes. Ils ne veulent pas lâcher les notes. Ça doit les sécuriser quelque part. Enfin, ils ne veulent pas lâcher les notes, donc on laisse ce fonctionnement-là. Sur les liens toujours avec le premier degré, et on a essayé de mettre en place ces commissions d'harmonisation avant de parler du conseil école-collège, puisque c'était il y a 2 ans. Et on s'est dit, nous, on travaille par compétences. Le premier degré nous transmet des LPC quand ils nous les transmettent. Mais on ne sait pas quels sont les attendus. Quels sont les attendus de l'enseignant de CM2 lorsqu'il valide telle ou telle compétence. Donc on avait provoqué une rencontre avec certains enseignants du premier degré pour essayer de construire, essayer de voir un petit peu quels étaient les attendus. Là, c'était un échec total. J'avais honte d'avoir invité les enseignants du collège à venir à cette commission, parce que le premier degré a essayé complètement de squeezer, se sentait remis en cause, l'impression que le collège était là pour avoir un regard de jugement sur leur travail. Donc ça n'a pas été possible. On a relancé les commissions d'harmonisation, c'est-à-dire qu'on a constitué une commission d'harmonisation au niveau du collège, et on s'est déplacé dans les écoles au mois de juin, et là on a retravaillé individuellement dans les écoles, où là on a eu un peu plus de réponses, parce qu'il n'y avait pas l'effet groupe. Voilà. Et cette année, donc, on a essayé de travailler sur le lien éducatif. Alors ça, c'est encore un échec de plus, puisque nous avons invité Mireille Sifali, puisqu'elle a consacré, a beaucoup travaillé sur le lien éducatif et travaillé sur l'influence de la posture de l'enseignant sur les apprentissages. Ça a été catastrophique. Les enseignants du premier degré ont parlé de violence institutionnelle vis-à-vis d'eux-mêmes. Ça a complètement bloqué tout échange, et ça n'a fait que creuser le fossé entre le collège et le premier degré. Voilà. Les rapports avec l'IUN ne permettent pas à l'heure actuelle d'avoir une ligne directrice. Donc voici les quelques questions délicates. Ah, j'ai oublié quelque chose. Une chose qui se fait un peu en parallèle, au niveau du quartier, on a mis en place un groupe de travail avec une association qui est Culture sur Cours, les éducateurs de prévention, les directeurs d'école du réseau. C'est quand même assez drôle. Les directeurs d'école du réseau, moi, et puis la réussite éducative, et la politique de la ville. Et c'est un groupe de travail qui réfléchit sur comment lutter contre le décrochage scolaire, ce qui est quand même assez drôle, parce qu'on voudrait bien quand même le faire au niveau du réseau et ça marche pas. Et le groupe est supervisé par Lynn Rossi qui est une directrice dans le Morvan, à Brassy, d'un lieu de vie, et qui est psychosociologue, qui a des écrits, enfin, on la retrouve assez facilement sur Google, et donc qui supervise notre travail, et le travail est nettement plus productif dans ce groupe-là que dans le réseau. Voilà.
Donc vous avez entendu que Marie-Claire parle cash. D'abord, on la remercie vraiment pour ça, comme les collègues précédents, hein, on est dans la vraie vie, et c'est ce qu'on cherche. J'ajoute, parce que c'est pas Marie-Claire qui peut le dire, que pour avoir été dans ce collège, c'est à la fois un collège qui est compliqué du point de vue social, peut-être au-delà de ce que tu as décrit, hein, c'est-à-dire que les rapports avec les institutions de police ou de justice sont quand même relativement fréquentes. Il y a quand même assez souvent des choses compliquées à la périphérie du collège, qui font que la violence est quand même excessivement présente, avec en gros, je ne sais pas quel est le pourcentage d'élèves de familles défavorisées ou d'origine étrangère que tu as, mais voilà, c'est assez frappant quand on arrive dans ces quartiers du 18e, à quel point la ségrégation socio-spatiale est forte. Hein. Ajoutez que, bien évidemment, le travail centré sur la pédagogie dans le collège que tu as décrit avec modestie, mais entre ce qu'on fait l'équipe de vie scolaire, l'équipe des professeurs installés dans le collège, je pourrais vous montrer des vidéos de fonctionnement de cours dans ce collège où vous vous diriez non, c'est pas possible qu'on soit dans des quartiers dits sensibles ou dits d'éducation prioritaire, à tel point où il y a vraiment des cours qui fonctionnent avec des exigences pédagogiques très importantes et très fortes. Et on peut le dire sans te faire rougir que c'est grâce au travail constant de l'équipe de direction du collège. Là, ce qui nous intéresse, hein, c'est vraiment cette question de, voilà, quand les pilotes ont des projets, il ne suffit pas qu'ils aient des projets pour que les choses fonctionnent. Cette question de l'articulation de la doublette, là, on est un peu à front renversé, hein, par rapport à tout à l'heure. Donc, il me semblait bien d'accrocher ces deux témoignages, parce que je voudrais pas qu'on sorte d'ici en disant qu'il y a un degré qui a des leçons à donner à l'autre. Hein. Et évidemment, on entend trop souvent dans nos métiers le fait que, voilà, si le premier et le second degré communiquent mal, c'est souvent parce qu'il y a un fautif. Donc, voilà. Maintenant, voilà, vos commentaires, vos réactions, vos demandes de précision, vos propositions, vos aides. Ah oui. Comme vous, si vous étiez adjoint avec Marie-Claire l'année prochaine dans ce collège, qu'est-ce que vous penseriez que vous auriez à vous dire pour préparer la rentrée ou la suite?
Alors, j'ai une petite question sur l'identification de la difficulté scolaire qu'avaient les élèves, parce que l'évolution nette des résultats au DNB, je pense que ne résulte pas forcément que du travail par compétence, parce que si on considère le temps d'appropriation des enseignants eux-mêmes du travail par compétence, est-ce que les élèves avaient véritablement des difficultés ou cette caractéristique sociale du secteur, qui est un véritable secteur difficile, hein, ce 18e arrondissement, fait que les élèves n'étaient pas au travail, potentiellement, n'était pas au travail, et que le fait de créer les conditions du travail ont amélioré aussi les résultats. C'est ça qu'on essaie de... Moi, c'est la question que je vous pose, hein, c'est d'essayer d'identifier véritablement où se situe la difficulté. Au final, est-ce qu'elle est dans le climat ou est-ce qu'elle est dans la capacité à investir des savoirs qu'on posait hier, des savoirs scolaires?
Oui, c'était ça. C'était la capacité à investir les savoirs scolaires. Le collège accueille pour plus de 95% des enfants qui sont issus d'Afrique subsaharienne, qui appartiennent à des familles souvent monoparentales ou avec des pères, mais les pères, lorsqu'il y a le père est absent, il est souvent reparti en Afrique pour ramener ou la énième épouse ou pour faire du business. Là aussi, bah oui, c'est aussi ça. C'est un petit peu compliqué, des familles très très nombreuses avec des enfants qui n'ont pas d'espace chez eux. Ils sont dans les deux pièces parfois à 12, 13, ou alors ils sont dans des hôtels sociaux, ou ils sont sortis des hôtels sociaux pour repartir sur un autre hôtel social. Enfin, c'est quand même des situations qui sont pas très faciles. Donc ça veut dire que le travail, il faut qu'il se fasse au collège. Ça, c'est clair. Et les enseignants ont pris conscience vraiment de la nécessité de travailler les savoirs. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des projets, pour faire de l'occupationnel. On était là aussi pour les faire travailler, pour qu'ils acquièrent des choses. Et ça a été le fait, effectivement, que Bernard soit venu là et parler, et travailler par compétence, ça a été aussi le déclencheur, puisqu'ils sont interrogés aussi sur leurs pratiques et sur ce qu'ils devaient faire véhiculer. Et ça a permis de déclencher aussi au niveau du collège une prise en charge des élèves le soir sur les études dirigées qui sont prise en charge uniquement par des professeurs. On n'a pas d'école.
Aussi une réorganisation.
On n'a pas le dispositif d'école, mais on a un travail à l'intérieur du collège par les enseignants qui encadrent les élèves sur les études dirigées. Et là, on n'entend plus. Ça fait la deuxième année qu'on fonctionne comme ça. Dans les conseils de classe, on n'entend plus. Ne fais pas son travail. Maintenant, c'est bavarde, mais c'est autre chose. Mais on n'a plus, ne fait pas son travail. Parce qu'effectivement, les enseignants sont là pour apporter de la méthodologie, pour aider les élèves dans leurs apprentissages. Ça a changé, oui. Je crois que c'était après la conception du travail par les enseignants. Ça a changé un petit peu leur vision du métier. Avec pas parce qu'on est en éducation prioritaire qu'il faut tirer vers le bas.
Avec l'appui d'un collectif de profs, autant tu dis il y a beaucoup de précaires, mais il y a quand même un collectif de profs très engagé, très compétent. Qui ont amené aussi la réflexion. Tu parlais du travail de l'équipe de maths, la réorganisation du travail, par exemple entre les AP et les profs. Hein. On a cessé de déléguer aux AP la question de la prise en charge de la difficulté ou du travail scolaire. C'est vraiment les profs qui ont réinvesti cette dimension en disant nous sommes les responsables de ce que font les AP et les AP sont nos auxiliaires, j'allais dire, mais on ne leur délègue pas ce qu'on ne sait pas faire. Je dis pas que c'est pas ça peut être c'est parfois ça, mais il y a une vraie réflexion sur cette question-là, quoi, qui est très forte, oui, je pense.
Tout à fait.
Question très pratique. Qu'est-ce que vous entendez par école polyvalente ?
C'est école maternelle et école élémentaire. Oui, voilà, école primaire. Mais ça dépend. Enfin, il y en a deux. Enfin, il y en a une qui est école maternelle et élémentaire primaire jusqu'au CM2. Et il y en a une autre qui est école maternelle et primaire jusqu'au CE1. C'est un peu particulier, je ne sais pas pourquoi, parce que les locaux permettaient peut-être pas. Et donc, ils repartent sur, après CE2, repartent sur l'école championnée qui est divisée encore en deux, après, sur le collège Boineau et sur le collège Gérard Philippe. Oui, c'est ça.
Sur la question du pilotage, vous n'avez pas évoqué le rôle.
Oui. J'ai oublié. Ils sont présents et sont efficaces. Je suis désolée, j'ai oublié. C'est ça, quand on travaille sans... Les IPR, on a deux IPR référents qui sont présents et qui jouent un rôle effectivement, ne serait-ce qu'au niveau du comité exécutif où ils apportent un petit peu leur expertise. Et puis aussi lorsqu'on met en place des commissions, parce qu'on avait fait un diagnostic partagé. Sur une demi-journée, un diagnostic partagé avec tout le monde. Et les IPR étaient effectivement présents sur les différents ateliers. Et apportent effectivement leur expertise et leur regard un petit peu de loin du réseau. Ça fonctionne très bien. Les réunions de bureau se font avec les IPR. Les réunions de bureau pour le comité exécutif se font avec IEN, IPR et les deux IPR, la coordonnatrice et moi-même. Les réunions de bureau les fait quasiment les deux IPR, la coordonnatrice et moi. C'est compliqué parce que l'agenda, la circonscription est très très importante. Il y a un réseau éclair et plusieurs RRS et d'autres écoles qui ne sont pas dans le RRS. Donc je ne mesure pas l'ampleur du travail de l'IUN.
Et qu'en est-il de la liaison vers les lycées ? Comment ça se passe ? Parce qu'on a les deux côtés à assurer.
Oui, bah alors là, ça n'assure pas du tout, parce que Paris est quand même, c'est quand même autre chose. Les élèves, alors j'ai pas les chiffres, mais les élèves du collège sont dispatchés dans au moins 10 établissements. Quand l'orientation en seconde, on fonctionne par district, et l'orientation ne se fait pas sur un seul lycée, elle se fait sur plusieurs. Alors on a essayé de faire une liaison en mathématiques avec un lycée, mais il y a trois élèves qui vont dans cet établissement, c'est extrêmement, on peut pas. La liaison avec le lycée, elle se fait pas. Alors elle se fait par contre sur le bassin, sur le bassin, parce que je suis aussi animatrice de bassin. Donc on essaye de travailler un petit peu cette liaison à tous. Parce que c'est compliqué de travailler sur 10 établissements, puis je parle de lycée général et technologique, mais il y a aussi, et les lycées professionnels, le secteur des lycées professionnels, c'est tout Paris. Alors il y a une multitude de lycées professionnels, c'est impossible.
Donc, la coordinatrice, c'est bien sur le collège.
La coordinatrice, elle est sur le réseau.
Oui, mais... D'accord, c'est la CPE, c'est ça ?
Non, elle était... Patrick m'a demandé quelle était son origine. Elle était CPE d'origine. Non, elle n'est pas sur le collège. Elle est détachée à temps plein sur le réseau.
Mais est-ce qu'il y a des coordonnateurs qui sont des enseignants du primaire qui sont détachés à temps partiel, par exemple ?
Oui, il y en a à Clémenceau.
D'accord.
Il y a un collège où il y a une... Non, je sais plus si c'est Clémenceau.
Pas dans ce réseau-là.
Non, mais pas dans notre réseau.
Le cordo, le secrétaire, il est d'origine diverse. Il peut être du premier ou du second degré, selon les modalités d'affectation, de désignation dans les différents réseaux. Souvent, je l'ai demandé la précision tout à l'heure, parce que au-delà de la qualité des personnes, ça joue beaucoup sur leur culture et sur leur reconnaissance dans le réseau. Pardon ? Et le lien qu'ils ont avec les équipes, mais c'est le même problème pour un enseignant du premier degré qui est cordo et qui doit aller travailler avec le collège. Hein. Il s'installe pas spontanément dans le collège. Après, il y a des questions de où est physiquement son bureau et la collaboration entre le secrétaire de réseau, l'IEN et le chef d'établissement est toujours compliqué par nature, mais Marie-Claire l'a dit sans embâge, hein, du fait qu'on a connu dans l'éducation prioritaire des changements de pilote. C'est-à-dire que pendant une certaine époque, on a dit à l'IEN, c'est toi qui pilote, c'est toi qui as les sous pour piloter. Puis on a dit au chef d'établissement, c'est toi qui pilote, c'est toi qui as les sous pour piloter. Et à ce moment-là, très clairement, il y a eu un certain nombre de l'IEN.
On n'a pas de sous.
Non.
La question réglée.
Il y a quand même l'affectation de moyens. Mais en tout cas, la psychologie qu'il y a derrière, quand on réclame, et c'est une des questions qui va être posée à la refondation, hein, quand on réclame du copilotage, Marc Bablé hier a insisté sur le fait qu'il fallait que l'institution à différents niveaux montre l'exemple. À partir du moment où, dans un réseau, rien n'impose la collaboration, et que statutairement, en plus, il n'est pas inscrit que les deux sont vraiment des copilotes, ces choses-là, elles sont nécessairement compliquées, indépendamment des cultures professionnelles des uns et des autres.
Oui, les chefs d'établissement sont recrutés sur profil, et l'IEN n'est pas recruté sur profil, non plus. Non, mais je pense que... Parce qu'en fait, les mutations, elles sont faites. Je pense que l'IEN qui arrivait sur le réseau, elle n'avait pas vraiment envie d'arriver sur un réseau éclair.
Ah, c'est ça, c'est... Alors, réaction de l'IEN. Cynthia est IEN hein, de métier. Elle travaille au centre Alain Savary, mais elle est IEN. Hein.
Non, l'idée, c'est de savoir quelles sont les perspectives pour le conseil école-collège qui doit prendre place à la rentrée 2014. Comment vous envisagez
Il s'est déjà réuni. Ça a été difficile. Mais c'est déjà réuni, puisqu'une école boycottait sous prétexte qu'il fallait des enseignants volontaires et qu'ils n'étaient pas volontaires puisqu'on les avait désignés, l'IEN les avait désignés d'office. Mais le conseil école-collège s'est réuni. Ça a été étonnamment fructueux. J'ai trouvé qu'il y avait un véritable échange. Mais, il y a quand même un mais. Quand on parle de la deuxième réunion du conseil école-collège, l'IEN a dit... sans consultation, sans me consulter, à ses directeurs, de toute façon, le travail ne se fera que sur le conseil école-collège, vous ne travaillerez pas en amont, c'est-à-dire en dehors, mais il y a des réflexions qui doivent se mettre quand même, qui doivent se travailler avant de se réunir en conseil école-collège. Là, le travail va devoir se faire pendant le conseil école-collège. Donc il faut que je m'adapte, il faut que je trouve une formule pour permettre que ça puisse se faire comme ça.
Encore une fois, la question qu'on posait ce matin sur la place des directeurs d'école dans les réseaux, on voit bien qu'elle est essentielle. C'est-à-dire, est-ce que les directeurs d'école font partie de l'équipe qui pilote, hein, et on l'a toujours quand on travaille en intermétier, que ce soit sur plus de mètres que de classe, sur enfin tout un tas de choses. La question des directeurs aujourd'hui, elle est cruciale, parce qu'il y a ce « eux » et « nous » qui est très difficile à dépasser dans le premier degré. Dans le second degré, c'est vrai que le chef d'établissement incarne très formellement l'autorité hiérarchique, même si les profs sont inspectés par leurs IPR, mais voilà, les profs disent quand même « c'est le patron », quoi. Ils parlent de leur chef d'établissement, etc. Et le fait que dans le premier degré, il y ait une autre culture, il ne s'agit pas de dire si c'est mieux ou moins bien, mais ça veut dire que nécessairement, les questions du travail collectif entre le directeur et la CIRCO, elles sont fondamentales. Parce que c'est ça qui va faire ou pas. Tu disais tout à l'heure plusieurs fois, tu as dit « j'oscille entre piloter avec les IEN ou piloter avec les directeurs ». Et quand j'arrive pas à passer par les IEN, j'essaie de passer par les directeurs, j'essaie d'aller au... Et on voit bien que là, dans notre institution, c'est un objet de réflexion à part entière. Si je veux piloter l'éducation prioritaire, qu'est-ce que je fais de cette liaison directeur d'école, IEN, chef d'établissement? Est-ce que j'accepte que les directeurs d'école soient des membres à part entière de l'équipe de pilotage? Parce qu'il y a, il peut y avoir un discours paradoxal, hein, de l'institution. C'est-à-dire qu'à la fois, on réclame des directeurs d'école qui soient des leaders, mais à la fois, on n'est pas toujours prêt à leur laisser la place dans l'équipe de direction, dans l'équipe de pilotage. Selon la manière dont les inspecteurs gèrent ça, c'est pas toujours simple.
Il y a aussi des positions syndicales.
Bien sûr.
Pour les directeurs, certains directeurs d'école s'estiment pas, ne sont pas des managers, ne sont pas là pour imposer les choses. Donc c'est parfois compliqué parce que ça se rencontre sur une école, ça.
Mais pour reprendre l'exemple tout à l'heure qu'on avait à Besançon-Planoise, on a des directeurs qui pour certains sont à la fois des militants syndicaux engagés, etc. Et le, en tout cas, ce qui a pu être fait. A permis aussi de dépasser le simple jeu d'acteur que parfois tu nous décris, hein, et c'est vrai que c'est parfois du théâtre, ces choses-là, et du théâtre qui est négatif parce qu'il empêche d'avancer. Et à quelles conditions on peut dépasser le théâtre tout en laissant à chacun des acteurs, voilà, ses droits, ses valeurs, et ses points de vue, c'est quand même difficile, quoi. C'est quand même difficile. Et ça, c'est...
Oui, il y a quand même une des pistes qui a été évoquée hier matin, il me semble, par Marc Bablé, c'est comment on devient tous un petit peu animateurs pédagogiques, quels que soient nos métiers. J'ai eu la chance de travailler avec un IEN qui n'hésitait pas au moment d'action formation recherche un petit peu semblable à ce qu'on a pu entendre ce matin, qui venait observer des classes au collège, et réciproquement une principale de collège qui allait voir ce qui se passait dans les classes du premier degré, et qui prenait le temps de le faire, et ça débloque des choses, quoi.